Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon vendredi, j'espère que vous allez bien. C'est Marianne Paquette au micro qui est là pour la dernière de la semaine. Vous écoutez l'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. L'hiver dernier, mars 2015, donc, l'actrice américaine bien, bien connue du grand public, là, d'ailleurs, ça s'est retenti dans les médias un petit peu partout dans le monde. Angelina Jolie, donc, révélait publiquement avoir subi une ablation des ovaires et des trompes pour se prémunir d'un cancer. Et ça, c'était assez étonnant parce que c'était 2 ans après une double mastectomie, et ce, pour la même raison. Il y a certaines personnes qui sont porteuses d'anomalies génétiques qui les prédisposent à certaines maladies, à certains cancers, et c'est le cas d'Angelina Jolie, porteuse d'un gène défectueux qui s'appelle le BRCA1 pour les curieux, et ce qui fait qu'elle avait environ 40-50% des chances, même certains disent, de développer un cancer des ovaires. D'ailleurs, sa mère est décédée de ce cancer-là, et également 87% de risque de développer un cancer du sein. Et en ayant subi ces opérations-là, elle descendait ce risque-là à 5 %. C'est assez majeur. Hein? Évidemment, on n'a pas tous la reconnaissance ou la tribune d'Angelina Jolie, mais certaines personnes vivent avec cette même réalité. Comment on peut se faire aider dans ce type de situation-là? Comment se faire guider? Comment en parler? Tout à l'heure, à l'émission, Nadine Dumas, elle conseillère à la clinique de médecine génique du CHUM, sera là pour nous aiguiller un petit peu là, sur ce qu'elle fait avec cette clientèle à risque. Et puis d'abord, vous l'avez peut-être observé, que ce soit en faisant vos courses au dépanneur, à l'épicerie, les boissons énergisantes ont envahit complètement nos tablettes et certaines d'entre elles contiennent de la taurine. Si je vous dis Monster, Red Bull, ça vous sonne des cloches, c'est à peu près certaine. Ce sont des boissons qui sont particulièrement prisées par les jeunes parce que, bon, elles promettent un regain d'énergie, là. Donc, lorsqu'on parle d'études, de conduite longue distance, de faire la fête toute la nuit, ben, ça peut être une option, mais en même temps, c'est quoi les impacts pour la santé? On va tenter de mieux comprendre c'est quoi la taurine avec Marielle Ledoux, nutritionniste et professeure titulaire au département de nutrition de l'Université de Montréal. Marielle Ledoux, bonjour.
Bonjour.
Ça va très bien, et vous?
Ah oui, très bien.
Lorsqu'on parle, Marielle, de boissons énergisantes, eh ben, on le sait, ça a des retombées économiques énormes. Là, on parle de centaines de millions de dollars, peut-être même des milliards de dollars, mais au point de vue de la santé publique, ça soulève vraiment des inquiétudes. Est-ce que ce sont, d'abord des inquiétudes qui sont justifiées?
En fait, plus ou moins, parce que la taurine est en fait un acide aminé, en fait pas tout à fait normal, là, si je peux dire, parce qu'elle n'a pas exactement la même configuration que les acides aminés habituels, mais pris en quantité telle que souvent on les voit dans les boissons énergétiques, énergisantes plutôt, et produits sportifs, la plupart du temps, ce sont pas des quantités qui sont excessives et à ce moment-là, même l'organisme est fait pour excréter l'excédent de taurine là, qui aurait été absorbé. Alors, théoriquement, il n'y a pas trop de problèmes face à cette ingestion-là.
Pas trop de problèmes parce que souvent, lorsqu'elle est consommée dans des boissons énergisantes, c'est en petite quantité, c'est ça?
Exact.
Je pense aussi que de la taurine, on en produit naturellement. Est-ce que c'est vrai, ça?
Effectivement. En fait, la taurine se retrouve dans un peu comme les acides aminés en général. Elle se retrouve beaucoup dans les tissus, la chair. Donc, elle va se retrouver dans la viande, dans les poissons. Mais effectivement, on en produit une bonne quantité. En fait, chez les bébés nouveau-nés, ils ne sont pas encore capables de produire ça en quantité suffisante. Mais très tôt, on développe tout notre système est développé de façon à ce que on produise ce dont on a besoin de façon générale.
Oui, parce que elle sert à quelque chose cette taurine-là dans le corps humain.
Son rôle est plus ou moins connu, mais oui, elle n'a pas la même fonction exactement que les acides aminés habituels qu'on dit, en fait, qui sont nécessaires pour produire la masse musculaire, etc., là, pour la synthèse protéique habituelle. Elle va être utilisée en partie pour ça, mais de façon générale, on ne sait pas encore exactement quel est son rôle face à la masse musculaire. On voit qu'elle aurait peut-être un effet via le système nerveux central. Donc, quand on réagit face à un événement, que ce soit de la course, de l'exercice ou que ce soit n'importe quel événement, la taurine interagit à ce moment-là, à ce niveau-là. Mais sa façon d'agir, son mode de fonctionnement,
c'est pas clair.
Est pas très bien connu. Ouais.
Et on l'appelle taurine parce que elle a été découverte. Cet acide aminé-là a été découvert sur de la chair de taureau, c'est ça?
Ben, en partie, mais ça, c'est peut-être un peu dans l'histoire aussi. Là.
Ah, OK. Donc, ça sert un peu peut-être à mieux vendre le produit.
Ben, définitivement, parce que ça lui donne son effet qu'on veut avoir dans Red Bull, par exemple, ou dans les autres boissons énergisantes, comme quoi ça nous stimule exactement.
Ah oui.
Mais son effet sur... Parce que c'est vraiment, si on le met dans les boissons énergisantes, c'est parce qu'on pense que ça va améliorer notre performance. Les études qui ont été faites sur la performance sont pas concluantes toujours. Dans certains cas, ils vont trouver des effets positifs, par exemple, sur le travail à long terme ou pas à long terme, à vraiment très court terme. Comme je vous disais, vu que c'est un effet sur le système nerveux central, ça va agir quand on veut partir vite ou quand on veut agir rapidement. Par contre, ça n'a pas nécessairement, mais c'est pas encore prouvé là, que ça a un effet sur le sprint, par exemple, ou sur on l'utilise en musculation parce que justement, on a enlevé des poids ou des choses comme ça, mais là encore, son effet additionnel n'est pas nécessairement prouvé. On va souvent l'avoir avec des acides aminés à chaîne ramifiée, là, les BCAA, là, qu'on voit souvent aussi dans les boissons énergisantes. Mais là encore, ça a été dans certains cas pour diminuer les douleurs musculaires là, sur des gens qui s'entraînaient pas souvent. On disait peut-être que ça pourrait avoir un effet chez ces gens-là de tu t'entraînes pas souvent, donc on est un peu, je peux dire, craqué. on se sent un peu mal après. On a mal à nos muscles. Alors, il y en a qui ont proposé cette solution-là ou le fait que la taurine pourrait aider à réparer ou enlever cette douleur-là, mais ça non plus, ça n'a pas été vraiment prouvé. Donc, il n'y a pas grand-chose de prouvé face à l'effet spécifique de la taurine sur la performance sportive, quelle qu'elle soit.
À part son impact lucratif et médiatique là, en ce qui concerne la vente des boissons énergisantes.
Effectivement. Par contre, le seul rôle qu'on lui voit dans certains cas attribué, ce serait d'avoir un effet sur de calmer un peu ce fameux système nerveux central. Ouais. C'est un peu compliqué à comprendre ou à voir comment ça pourrait fonctionner, puisque d'un côté, on nous dit que ça aide au système nerveux central. Puis de l'autre côté, on dit, ça va le calmer.
Oui.
Alors, il faut... on a parlé d'améliorer la concentration, mais là encore, ça n'a pas été prouvé. Alors, il n'y a pas grand-chose de prouvé spécifiquement, en tout cas. Encore une fois, face à l'exercice et à la performance sportive.
En terminant, Marielle Ledoux, ce qui souvent fait craindre les médecins, les spécialistes de la santé en ce qui a trait aux boissons énergisantes, c'est le fameux mélange, donc boissons énergisantes, alcool. On sait que ça contient beaucoup de caféine, beaucoup de sucre, les boissons énergisantes. Si on mélange la taurine avec de l'alcool ou autre chose, est-ce que ça peut avoir des impacts graves sur la santé?
En fait, vous avez raison. Ce qui fait le plus craindre les problèmes liés à la taurine, c'est non seulement avec l'alcool, mais aussi le fait que souvent, ça se retrouve dans des produits qui contiennent aussi des stéroïdes, par exemple, ou d'autres substances qui sont jugées illégales lorsqu'on fait du sport.
Okay.
Et donc, il y a eu un cas de de confirmer là, de quelqu'un qui avait eu un problème un brain damage, comme ils disent, un problème au cerveau, un dommage tissulaire. Il y en a d'autres qui vont parler de dommages au niveau du cœur, mais tout ça, c'est vraiment dans des quantités importantes, excessives, oui. Et aussi probablement mélangé avec des stéroïdes ou autres substances illégales. Et on ne sait pas lequel des éléments a eu l'effet négatif.
Mm-hmm. Ben, en résumé, on sait peu de choses sur la taurine, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est tenter d'éviter de se tenir loin de ces boissons, que ça devienne quelque chose d'exceptionnel lorsqu'on en consomme.
C'est exactement ce qu'il faut faire parce que en plus, bon, comme vous avez mentionné, le risque avec les boissons énergisantes et l'alcool, par exemple, c'est le fait de prendre des boissons énergisantes vont masquer l'effet de l'alcool. Donc, on ne se rendra pas compte qu'on va avoir une quantité importante. Et là, c'est là que le problème, parce que finalement, ça masque l'effet perçu, mais pas l'effet réel là, sur le système.
Mm-hmm. Marielle Ledoux, je rappelle, vous êtes nutritionniste, professeure titulaire au département de nutrition de l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine à vous.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@vusevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Nadine Dumas, bonjour.
Bonjour, madame, vous allez bien?
Je vais très bien, vous-même.
Oui, merci.
Vous êtes conseillère, oui, à la clinique de médecine génique du CHUM.
Oui, c'est exact, conseillère en génétique.
Et Nadine, je me disais, lorsqu'apparaît un cancer ou une maladie, il y a plusieurs facteurs, bien sûr, qui déterminent cette apparition, dont les habitudes de vie, le fameux hasard, la loterie et l'hérédité. Mm-hmm. Et lorsque je me penchais sur la médecine génique, je me disais, au fond, c'est l'évaluation des risques qui sont liés à cette hérédité-là. Donc, vous faites de la gestion de risque un petit peu, Nadine.
Oui, en un sens, en effet, ça cible bien ce qu'on fait en génétique. J'aime bien dire aux gens que venir en génétique n'égale pas nécessairement là, faire un test génétique. Il y a vraiment un processus d'évaluation des antécédents de la maladie, du cancer, par exemple, dans la famille, pour déterminer est-ce que c'est probable, possible qu'il y ait une hérédité dans cette famille. Si oui, est-ce qu'il y a indication de faire des tests génétiques? Si oui, lesquels? Donc, on entend parler, par exemple, des gènes BRCA1 et 2 à cause d'Angelina Jolie. Mm-hmm. C'est pas nécessairement le test qui va être approprié chez tout le monde non plus. Donc, il y a vraiment, en effet, là, un processus d'évaluation des risques, à savoir est-ce qu'il y a indication de faire des tests.
Ce processus d'évaluation, il est fait par le médecin traitant?
Non, en fait, le médecin traitant, généralement, va référer le patient vers nous. Donc, va nous orienter des patients chez qui, soit lui-même, se soulève la question, est-ce qu'il pourrait y avoir une hérédité dans cette famille? Parfois, c'est les patients d'eux-mêmes qui vont aborder la question avec leur médecin, puis ils vont les orienter vers nous. Puis, l'évaluation, bien, se fait, en fait, dans le cadre de la clinique. Donc, les conseillers en génétique, on travaille dans des cliniques, généralement hospitalières, un milieu multidisciplinaire, c'est ça. Et donc, ça va se faire là, par l'entremise de médecins spécialistes, comme les médecins généticiens, par exemple, et les conseillers en génétique, cette évaluation.
Nadine, les gens que vous rencontrez, est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils vivent avec une maladie? Ou parfois, c'est vraiment un titre préventif?
En fait, on voit vraiment les deux. Donc, on voit des patients qui eux-mêmes ont une maladie, qui se questionnent est-ce que ça pourrait être quelque chose d'héréditaire qui pourrait avoir un risque pour mes apparentés. On va aussi, dans certains cas, voir des patients chez qui, par exemple, on sait déjà que dans la famille, il y a en effet là, une condition héréditaire qui eux-mêmes, leur statut est inconnu et ils viennent dans le but d'apprendre ce statut-là, donc pour faire un test génétique qu'on appelle prédictif dans ce temps-là. Donc, on voit vraiment les deux.
Est-ce que certaines personnes peuvent venir vous voir en disant, moi, je n'ai pas parlé à un médecin du tout, mais mon père ou ma mère vit avec l'Alzheimer ou un cancer et j'ai peur que ça m'arrive et je suis venue vous consulter?
C'est une très bonne question. En fait, ça dépend vraiment des cliniques. Donc, il y a en effet des cliniques qui vont accepter des autoréférences, d'autres non. C'est sûr qu'idéalement, on a toujours un médecin référent à qui on peut ensuite retourner le patient là, pour toutes les questions de prise en charge, par exemple. Donc, idéalement, on passe vraiment par le médecin, mais c'est sûr que les gens parfois viennent avec des questions, puis au final, notre discussion, ça va être, mais écoutez, basé sur les antécédents, basé sur ce qu'on a comme information, c'est peu probable que ce soit héréditaire, on rassure, on ne fait pas de test génétique en tant que tel. Mais vraiment, là, est-ce que les patients peuvent se référer d'eux-mêmes? Généralement, ça va vraiment dépendre des cliniques. Probablement, le mieux, ça serait qu'un patient aborde cela avec son médecin traitant et demande à son médecin de l'orienter vers une clinique de génétique.
Nadine Dumas, c'est quoi les bonnes raisons pour faire ces tests-là?
Bonne raison. En fait, ce qui est difficile avec bonne, c'est que c'est vraiment relatif. Hein? Tous les patients qu'on voit, ben c'est des humains. Donc, les humains sont tous uniques. C'est des êtres qui sont complexes. Ils ont tous leur vécu. Donc, les bonnes raisons pour une personne ne seront pas nécessairement les bonnes pour une autre. Mais si je parle de façon un peu plus générale, si on pense par exemple à un syndrome de prédisposition héréditaire au cancer, ben une bonne raison de faire ce test-là, c'est que ça nous peut nous permettre d'identifier une personne qui devrait bénéficier d'un suivi préventif qui est différent de la population générale, par exemple. Donc, ça pourrait être vu comme une bonne raison, ça, de faire le suivi pour adapter la prise en charge. Une bonne raison, ben c'est sûr que pour certaines personnes, savoir, c'est pouvoir. Donc, le plus d'informations ils ont, le mieux ils se sentent outillés là, pour faire face à un risque potentiel, par exemple. Mais vraiment, ce n'est pas le cas pour tout. Donc, on met beaucoup d'emphase là-dessus dans le conseil génétique. On évite de parler de bonnes ou de mauvaises raisons. On cherche vraiment à savoir pour le patient, c'est quoi sa motivation à faire cette démarche-là? Qu'est-ce que ça peut lui donner comme information? Qu'est-ce qui est positif pour lui, négatif pour lui? Donc, vraiment, on laisse ça le plus au patient à déterminer.
Vous le guidez, en fait. C'est combien de rencontres là, lorsqu'on parle d'un contact avec un conseiller en génétique?
En général, on parle d'un minimum de deux. Je dirais que la grande majorité, c'est deux. Donc, une première rencontre où il y a vraiment cette évaluation-là. Donc, est-ce qu'il y a indication d'un test? Oui, lequel? Et il y a toute la discussion pré-test. Donc, c'est quoi les impacts de faire le test pour vous, pour la famille, pour la prise en charge, etc. Et ensuite, le patient, dans cette rencontre-là, qui va durer généralement là, 45 minutes à une heure, le patient va prendre une décision de faire ou non le test. Si le test n'est pas fait, c'est plus au besoin. On revoit le patient s'il y a des questions, s'il changeait d'idée dans le futur, par exemple. Si le test est fait, bien, c'est sûr que généralement, on va préférer revoir le patient en personne pour lui remettre ses résultats. La génétique, ça évolue rapidement. Les tests deviennent de plus en plus complexes. Ce qu'on est capable de trouver devient de plus en plus complexe. Donc, c'est beaucoup plus facile à expliquer ces résultats-là, à les donner au patient en face à face. Donc, c'est la préférence. Donc, je dirais au minimum deux rendez-vous. Dans certaines situations particulières, si on pense par exemple à des tests pour la maladie d'Alzheimer dans certaines situations, des fois on va rajouter là-dedans peut-être une consultation avec une psychologue. Donc, il peut y avoir quelques petites variations là-dedans à ce schéma.
Je reviens avec cet exemple d'Angelina Jolie. Vous l'avez cité tout à l'heure, Nadine. Oui. Je l'ai fait également lors de mon introduction.
Oui.
Dans ce genre de situation-là, où les tests vont démontrer un gène défectueux et des pourcentages très, très élevés de développer la maladie, comment on aborde la chose? Bon, avec le patient, c'est une chose, mais après aussi avec sa parenté, avec sa fille, avec les enfants. Bon, on s'assoit aussi avec toute la famille? Est-ce que c'est une démarche que vous employez?
En fait, c'est définitivement une possibilité là, de rencontrer la famille, mais c'est sûr que ça, c'est quelque chose qu'on va aborder avec le patient pendant la consultation initiale. Donc, à qui avez-vous parlé de cette démarche-là à date? Est-ce que la famille est au courant? Ou sinon, à qui prévoyez-vous en parler, par exemple? Puis c'est sûr qu'on va aussi tenter de guider le patient. Ah, bien, pourquoi est-ce que ça pourrait être bien, par exemple, d'en parler avec la famille? Qui dans la famille, ça serait pertinent d'en parler, par exemple? Ça peut varier là, selon quelle est la condition en question. Donc, on tente de guider un peu le patient initialement là, lors de la consultation. Puis, lorsqu'un diagnostic est posé, donc lorsque, par exemple, on confirme une mutation dans le gène BRCA, donc un gène BRCA avec une faute d'orthographe, mm-hmm. bien là, à ce moment-là, c'est sûr qu'on essaie d'aider le patient à comment aborder avec la famille. Donc, nous, la plupart des cliniques de génétique vont utiliser des lettres de famille. Donc, c'est des lettres plus générales qui parlent de façon plus générale de qu'est-ce qui a été identifié dans la famille sans nommer qui nécessairement a fait les tests. Mm-hmm. Et puis, on invite le patient généralement à partager cette lettre-là avec sa famille. Donc, certains gens vont le faire, certaines personnes par courriel, d'autres vont le transmettre à un membre de la famille qui est peut-être celui qui est le plus en contact avec les apparentés. Donc, il n'y a pas de formule unique, si on veut, mais c'est sûr que nous, on invite le patient à en parler en amont avec les gens, donc avant d'avoir le résultat devant le fait accompli. Comme ça, il y a un peu une idée aussi de qui dans la famille veut cette information-là. Donc, s'il a parlé à sa tante, puis sa tante dit « moi, je veux pas du tout le savoir », bien, quand il y a ses résultats, il sait qu'il n'est pas à l'aborder avec sa tante, par exemple. Mm-hmm. Oui.
On parlait tout à l'heure, parce que, bon, on va le dire aux auditeurs, on s'est parlé un petit peu au téléphone tout à l'heure, Nadine, oui. et on parlait de ce film qui est également à la base un livre, Still Alice, oui. où une femme, c'est Julianne Moore, qui joue le personnage principal, apprend qu'elle a l'Alzheimer assez jeune, là, on parle oui. de mi-cinquantaine, et qu'elle l'annonce, elle l'annonce à ses enfants en disant, bien, il est fort possible que vous ayez également ce gène, mm-hmm. et également, bon, un petit peu comme vous venez de le dire, là, certains de ces enfants disent « non, moi, je ne veux pas le savoir », d'autres disent « oui, oui, moi, je veux le savoir ». On peut même avertir notre famille avant même de faire les tests, j'imagine.
Oui, c'est ça, en fait, puis c'est généralement, en fait, ce qu'on encourage là, les gens à faire, donc d'aviser la famille d'avance. Comme ça, une fois qu'on a des résultats, on est déjà assez... Parce que c'est sûr qu'une fois qu'on a une information, comme par exemple un risque élevé d'Alzheimer ou un risque élevé de cancer, une fois qu'on a cette information-là, bien, c'est sûr qu'on peut être porté à vouloir la transmettre. Mais si quelqu'un a été clair qu'il ne veut pas cette information-là, ouais. bien, c'est sûr que nous, on invite le patient à respecter là, l'autonomie de ce patient-là qui ne veut pas avoir l'information. Donc, le plus d'informations avant, le mieux. Ouais. Mais c'est sûr que ça, on parle de situation idéale, c'est pas toujours comme ça. Donc, on demeure disponible pour par exemple, des rencontres en famille. On le fait là, dans certains cas, des rencontres de famille pour un peu discuter de qu'est-ce qui a été identifié dans la famille, qui ça touche, etc.
Et dans le cas où l'on détecte bon, un gène défectueux, comme je le disais tout à l'heure, j'imagine tout un plan de match qui va s'effectuer, là, un petit peu un terme de sport, mais là, on va oui. parler de prévention, peut-être de médicaments, exactement. De différents soins. Et ça aussi, j'imagine que le patient a besoin d'être guidé dans ces choix-là.
Oui, tout à fait. Donc, ça fait aussi partie, là, d'une des raisons pour laquelle c'est bien que lorsqu'on a un médecin traitant ensuite à qui retourner le patient. Et nous, on peut faire des recommandations au médecin traitant, à savoir est-ce qu'il y a un suivi particulier à débuter pour ce patient. Si oui, à quel âge? Si c'est une histoire de, ben, par exemple, il y a une médication qu'on pourrait donner, ben là, nous, on peut orienter nous-mêmes le patient vers les spécialistes en question. Donc, le but, c'est en fait de tout ça, du conseil génétique, ça va vraiment être d'aider le patient à s'adapter le mieux que possible à la maladie ou à son risque là, dans la famille. Donc, c'est sûr que le but, c'est de pas non plus renvoyer les gens dans la nature après sans ressources. On essaie vraiment de les accompagner là, dans ce processus-là, les orienter vers les bons spécialistes, si c'est approprié, les retourner vers leur médecin avec des recommandations.
Mm-hmm. Lorsqu'on parle de prévention, souvent, on va penser aux saines habitudes de vie, le mode mm-hmm. de vie, mais est-ce que la médecine génique, Nadine, est une forme de prévention dans la percée médicale, hein, je veux dire?
Oui, on pourrait voir ça comme ça, dans le sens que, par exemple, si on parle de risque de cancer, donc une famille qui aurait un risque, par exemple, de cancer du côlon qui est augmenté, dans la population en général, on débute le dépistage pour le cancer du côlon dans la cinquantaine. Mais si, dans certaines familles, on est capable de cibler qu'en effet, chez cette famille, c'est approprié de commencer beaucoup plus tôt, vers 25 ans, par exemple. Mais en effet, c'est de la médecine préventive parce qu'on débute un suivi plus tôt. Le but, c'est d'identifier potentiellement, par exemple, un polype au niveau du côlon avant que ça devienne quelque chose de plus sévère. Donc, oui, en effet, ça pourrait être vu comme de la médecine préventive. C'est vraiment comme ça qu'on essaie aussi de le présenter aux patients.
Mm-hmm.
Oui.
Maintenant, bon, le temps file et je voulais aborder tout le côté éthique, parce que ça entraîne énormément de questions, ces dépistages génétiques-là. Il y a un point de vue, bon, familial, là, on en parle depuis tantôt, mais personnel, très émotif, la vie privée. Tu sais, après ça, il y a même un côté, bon, les assurances, hein, des fois, si on se fait détecter un gène défectueux, il y a nos assurances qui peuvent dire, OK, moi, je vous assure plus, là. Mm-hmm. Ça peut avoir des répercussions sur plein de facettes. Comment vous guidez les gens qui vous consultent?
Oui, en fait, c'est des questions, des excellentes questions que vous posez, que les patients nous posent. Généralement, les patients arrivent très bien informés, très bien préparés avec leurs questions. Pour ceux qui seraient moins préparés, c'est définitivement des choses qu'on veut aborder avec eux lors de la consultation. Donc, ces risques-là, par exemple, en termes de discrimination, les risques aussi au niveau de la perception de soi-même, par exemple, est-ce que ça peut changer si on identifie quelque chose d'héréditaire chez la patiente ou le patient, est-ce que ça peut changer comment cette personne-là se perçoit? Donc, à long terme, est-ce qu'il y a des risques de troubles psychologiques, par exemple, chez cette patiente ou ce patient. Donc, c'est sûr que tout ce volet-là éthique fait partie intégrale, là, je dirais, de la consultation en génétique, là, du conseil génétique. Puis, il n'y a pas nécessairement là, de formule qu'on utilise, mais ça va vraiment être, c'est vraiment un échange, en fait, un conseil génétique. C'est une discussion entre le patient et le conseiller qui va vraiment être guidée par les questions du patient, par ses inquiétudes. Mais c'est sûr qu'on va toujours vouloir glisser là, ces éléments-là, parce que c'est des choses auxquelles les patients vont devoir faire face ensuite avec leurs résultats.
Et c'est une façon de se préparer aussi. Vous le disiez tout à l'heure, là, on n'a jamais trop de préparation dans ce genre de démarche-là.
Oui, exactement. Donc, moi, j'incite toujours, des fois, on parle aux patients avant de venir en rendez-vous, et moi, je les incite toujours à avoir une réflexion, là, même avant de venir. Donc, souvent, on va leur demander comme question initiale, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Puis, 80 % du temps, c'est parce que mon médecin m'a référé. Donc, c'est sûr qu'idéalement, quand cette question-là, elle est posée, bien, parce que le patient a eu une réflexion sur qu'est-ce que moi, je viens chercher en génétique, qu'est-ce que je cherche comme information, de quels outils est-ce que j'ai besoin pour prendre une décision? Est-ce que c'est de l'information? Est-ce que c'est du soutien psychologique, psychosocial? Donc, c'est sûr que si le patient réfléchit à ça avant même la consultation, mais c'est sûr que là, la consultation peut vraiment mieux en répondre là, aux besoins de ce patient-là particulier.
Nadine Dumont, c'était vraiment fascinant de vous entendre.
Merci.
Vous nous avez fait voir tout un côté de la médecine, de l'accompagnement aussi du patient qui est très, très peu connu. Merci beaucoup de cette participation-là.
Je rappelle, merci de l'invitation.
Vous êtes conseillère à la clinique de médecine génique du CHUM. Une très belle fin de semaine à vous.
Merci, vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Rémi Hermoso à la mise en onde, Christiane Campagna à la recherche, et il y a Kevin Breton aussi aux médias sociaux. Eh bien, on vous souhaite tous une très, très belle fin de semaine. C'est Marianne Paquette au micro. Reposez-vous, portez-vous bien, puis nous, ben, on se retrouve lundi. Bye-bye!